Chapitre 9. L'esprit de la prophétie dans l'Apocalypse de Jean. Ranko Stefanovic. Le texte d'Apocalypse 12, verset 17, définit le reste fidèle de la fin des temps comme étant ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. La deuxième de ces caractéristiques est mentionnée à nouveau dans Apocalypse 19, verset 10, qui décrit Jean, le prophète, prostré aux pieds d'un ange pour l'adorer. Cependant, l'ange lui dit aussitôt: garde-toi de faire cela, je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères qui porte le témoignage de Jésus. Prosterne-toi devant Dieu. L'ange poursuivit en déclarant: car c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. De tout temps, les théologiens se sont efforcés de comprendre ces deux expressions, sans pour autant trouver de consensus. Le but de cette étude est de définir le sens des expressions « le témoignage de Jésus » et « l'esprit de la prophétie » en lien l'une avec l'autre, afin de comprendre le sens et la fonction des prophètes et du don de prophétie dans l'Apocalypse. Le témoignage de Jésus. Les expressions « le témoignage de Jésus » et « l'esprit de la prophétie » étant considérées comme équivalentes dans le livre de l'Apocalypse, il semble que la première expression permette de comprendre le sens de la deuxième. La difficulté concernant l'expression « le témoignage de Jésus » réside dans le fait qu'elle peut être interprétée comme un génitif subjectif ou objectif. Dans le premier cas, le témoignage serait porté par Jésus, ce serait son témoignage, durant sa vie sur la terre et plus tard par les prophètes chrétiens, alors que dans le deuxième cas, cela serait une référence aux croyants portant témoignage au sujet de Jésus ou concernant Jésus. D'ailleurs, les traducteurs sont partagés concernant cette expression. En anglais, la New International Version l'a traduite ainsi, considérant qu'il s'agit d'un génitif subjectif. « As, they, hold firmly to what Jesus has said », ce que Jésus a dit. En revanche, le sens est différent dans la version « Today's New International Version » qui considère qu'il s'agit d'un génitif objectif. « Those who hold fast their testimony about Jesus », leur témoignage au sujet de Jésus. Les traducteurs de la version Revised Standard Version vont dans ce sens. Who bear witness about Jesus? Cette deuxième interprétation est partagée par de nombreux commentateurs du livre de l'Apocalypse. Cela ferait de tous les croyants de l'Église des prophètes qui, inspirés par l'Esprit, portent un témoignage concernant Jésus. L'expression le témoignage de Jésus et Marturia Jésus se trouve 6 fois dans le livre de l'Apocalypse. 1, verset 2, 9, 12, verset 17, 19, verset 10, 20, verset 4. Dans Apocalypse 1, verset 9 et 20, verset 4, cette expression peut être comprise comme étant un génitif objectif, le témoignage que Jean et les chrétiens fidèles portaient au sujet de Jésus, alors que le contexte semble indiquer que, dans Apocalypse 1, verset 2, 12, verset 17 et 19, verset 10, il s'agit d'un génitif subjectif. C'est la conclusion de nombreux théologiens. Cette affirmation est soutenue par plusieurs arguments. 1. Dans les écrits johanniques, l'objet du témoignage est souvent évoqué grâce à la préposition « péri » au sujet de, faisant référence à « 2 », comme on le constate dans le texte suivant. « Dioti ou paradexontei, sous marturian péri emou, parce qu'ils ne veulent pas accepter votre témoignage à mon sujet. » D'un autre côté, la notion de subjectivité est régulièrement exprimée par la combinaison syntaxique du nom « témoignage »,« marturia » et d'un nom ou d'un pronom au génitif « témoignage » / « témoin de ». Le texte de 1 Jean 5, verset 9, peut être pris en exemple. « Si nous recevons le témoignage des humains, ten marturia ton anthropon, le témoignage de Dieu, et marturia tu teu, est plus grand. » Car le témoignage de Dieu, et marturia tu teu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Oti me martureken peri tu huiu otu. C'est aussi le cas dans tous les autres textes des écrits johanniques où l'on trouve l'expression le témoignage de Jésus. Cela nous amène à la conclusion que l'expression le témoignage de Jésus dans Apocalypse 12, versets 17 et 19, verset 10, doit être comprise dans le sens subjectif. Le témoignage porté par Jésus. Le sens objectif serait exprimé par « et marturia peri Jésus », le témoignage concernant Jésus. 2. Dans Apocalypse 12, verset 17 et Apocalypse 19, verset 10, les saints de la fin des temps sont ceux qui ont et chantonnent le témoignage de Jésus, et non ceux qui portent le témoignage de Jésus, comme beaucoup de traducteurs l'indiquent à tort. L'emploi du verbe « avoir »,« écho », associé à l'expression « le témoignage de Jésus », « ten marturian Jesu », fait référence au sens subjectif du nom au génitif. Les saints de la fin des temps sont en possession du témoignage de Jésus. La force de ce verbe combiné au témoignage de Jésus est généralement oubliée par les théologiens qui choisissent le génitif objectif. C'est la raison pour laquelle l'expression est « porte le témoignage ». En grec, le verbe « écho » a plusieurs nuances, mais son sens principal est « possession ». C'est la signification principale de ce mot dans le Nouveau Testament. Cela est notamment vrai quand l'objet des « échos » est « marturia ». Avoir un témoignage fait référence au témoignage de quelqu'un d'autre plutôt qu'au sien, comme dans la déclaration de Jésus « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, me rendent témoignage, attestant que le Père m'a envoyé. Ego de ekoten marturian, ta erga a poio marturei peri emu. » Jean 5, verset 36. De plus, comme le dit Paul, un ancien d'église doit avoir un bon témoignage de la part de ceux du dehors. Traduction personnelle. Dei decai marturian calen echein apoton exoten. 1 Timothée 3, verset 7. Dans ces deux cas, l'expression « avoir le témoignage de » est suivie du génitif subjectif. L'idée objective des croyants rendant témoignage concernant Jésus serait exprimée grâce au verbe « martureo » « témoigner » et à la préposition « peri » au sujet de « concernant » plutôt qu'avec le verbe « écho » « avoir ». Ces deux exemples suggèrent que l'expression « avoir le témoignage de Jésus » « echanton ten marturian Jesu » d'Apocalypse 12, versets 17 et 19, verset 10, ne fait pas référence au témoignage que les croyants de la fin des temps portent concernant Jésus. Elle indique plutôt que les croyants de la fin des temps sont en possession d'un témoignage que Jésus lui-même porta au cours de sa vie et de son ministère sur la terre, et qui fut prêché par les prophètes après son ascension. L'esprit de la prophétie. Le fait que l'expression « le témoignage de Jésus » soit à la forme subjective est confirmé par le texte d'Apocalypse 19, verset 10, où elle est associée à « l'esprit de la prophétie ». « Et gar marturia Jesu, estin to pneuma tes propheteias ». Deux questions se posent ici. Premièrement, quel est le sens de l'expression « l'esprit de la prophétie » ? Deuxièmement, pourquoi le témoignage de Jésus est-il l'équivalent de « l'esprit de la prophétie » ? La difficulté majeure concernant l'expression « l'esprit de la prophétie » réside dans le fait qu'on ne la trouve que dans ce texte d'Apocalypse 19, verset 10, et nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. D'autre part, Jean ne l'explique à aucun moment dans son livre. La raison évidente est que les lecteurs du 1er siècle la connaissaient certainement et n'avaient donc pas de difficulté à saisir ce que Jean voulait dire. Il semble que l'expression « le témoignage de Jésus » ait été formulée par Jean, mais en réalité, des sources juives indiquent que l'expression « l'esprit de la prophétie » était couramment employée par le peuple juif à l'époque de la rédaction de l'Apocalypse. Elle faisait alors exclusivement référence au ministère prophétique. L'encyclopédie Jewish Encyclopedia explique que, vers la fin de la période du Second Temple, le Saint-Esprit était parfois identifié à l'esprit de la prophétie. Cette équivalence est manifeste tout d'abord grâce à la fréquence d'utilisation de cette expression dans les Targum, les traductions paraphrastiques araméennes de l'Ancien Testament utilisées dans les synagogues. Voici quelques exemples. Targum Onkelos, de Genèse 41, verset 38. Ainsi le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pouvons-nous trouver un homme comme celui-ci qui soit rempli de l'esprit de la prophétie devant le Seigneur ?» Voir aussi Targum de Jonathan, de Genèse 41, verset 38. Targum de Jonathan, d'Exode 35, verset 31, concernant Betsalel. et rempli de l'esprit de la prophétie devant l'Éternel, en sagesse, en intelligence, en connaissance et en tout genre de savoir-faire. Targoum de Jonathan, de Nombre 11, versets 25 à 29. Sur chacun des 70 anciens, et l'esprit de la prophétie se posa sur eux, alors ils commencèrent à prophétiser sans cesse. Or, deux de ces hommes étaient restés au camp. L'esprit de la prophétie se posa sur eux, car ils étaient parmi les anciens, mais ils étaient sortis de la tente et ils prophétisaient dans le camp. Moïse lui dit, « Es-tu jaloux pour moi ? Non, je voudrais que tout le peuple du Seigneur soit des prophètes, parce que le Seigneur mettrait l'esprit de sa prophétie en eux. » Voir aussi Targoum de Jonathan, de Nombre 11, versets 25 à 29. Targoum Onkelos, de Nombre 27, verset 18. Le Seigneur dit à Moïse, « Prends Josué le fils de Noun, un homme en qui il y a l'esprit de la prophétie, et mets ta main sur lui. » Targoum de 2 Chronique 15, verset 1. L'esprit de la prophétie vint sur Azaria, le fils d'Oded. Targoum d'Ésaïe 61, verset 1. L'esprit de la prophétie du Seigneur est sur moi. Voir le Targoum d'Ézéchiel 11, verset 5 et 41, verset 38. Targoum de Michée 3, verset 7, 8. Les faux prophètes seront honteux, car l'esprit de la prophétie du Seigneur n'est pas en eux. Moi, par contre, je suis devenu plein de force, avec l'esprit de la prophétie du Seigneur. Ce ne sont que quelques exemples représentatifs. On pourrait citer bien d'autres textes. Ils montrent tous que l'expression « esprit de la prophétie » était souvent utilisée dans les synagogues avant et après que Jean ne fasse référence à l'esprit de Yahvé venant sur tel ou tel prophète. Puisqu'on considérait que tous les prophètes parlaient en étant animés du Saint-Esprit, le signe le plus caractéristique de la présence du Saint-Esprit était le don de la prophétie, dans le sens où la personne sur laquelle il reposait connaissait le passé et l'avenir. Plus tard, les rabbins allèrent aussi dans ce sens. L'encyclopédie The Universal Jewish Encyclopedia explique « Dans la littérature rabbinique, Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, est quasiment toujours celui qui inspire. Il est mentionné que l'Esprit est l'auteur de certains passages de la Bible, comme Cantique des Cantiques 8, verset 5, ou de passages dans lesquels il est dit que Dieu lui-même parle. » D'après les écrits rabbiniques, les rabbins croyaient que certains passages bibliques étaient souvent considérés comme venant directement du Saint-Esprit. Bien qu'écrites après la période de rédaction du Nouveau Testament, on considère généralement que ces sources reflètent une tradition antérieure, essentiellement datant du 1er siècle. Elles montrent que pour les lecteurs du 1er siècle du livre de l'Apocalypse, l'expression « l'esprit de la prophétie » faisait référence au Saint-Esprit qui inspire et donne aux prophètes la capacité de formuler le message qui leur est révélé et confié par Dieu. Ce concept est aussi attesté dans le Nouveau Testament, voir Luc 2, versets 25 à 32, 2 Pierre 1, verset 21. Une question se pose donc. L'expression « l'esprit de la prophétie » fait-elle référence au Saint-Esprit dont tous les chrétiens sont remplis pour pouvoir témoigner au monde, ou fait-elle référence à un don spécifique du Saint-Esprit qui distingue certaines personnes de l'Église du reste des croyants? Les sources juives citées précédemment montrent que l'expression « l'esprit de la prophétie » faisait référence au Saint-Esprit qui parlait par l'intermédiaire de certaines personnes appelées prophètes, plutôt qu'à tout le corps des croyants dans leur rôle prophétique. Cette notion est confirmée par le texte d'Apocalypse 22, versets 8-9, qui complète manifestement celui d'Apocalypse 19, verset 10. Dans ces deux passages, Jean tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer, et dans ces deux passages, l'ange lui demande de ne pas le faire. Cependant, dans Apocalypse 22, verset 9, l'ange explique que les frères d'Apocalypse 19, verset 10, sont les prophètes. Hermann Stratmann souligne à juste titre, d'après le texte parallèle d'Apocalypse 22, verset 9, les frères qui sont mentionnés ne sont pas les croyants en général, mais les prophètes. C'est ce que dit le verset 10c. S'ils ont martyria Jésus, ils ont l'esprit de la prophétie. Autrement dit, ce sont des prophètes, comme l'ange, qui est tout simplement au service de martyria Jésus. Voir 1, verset 1. L'idée que le Saint-Esprit accorde le don de prophétie aux prophètes est confirmée par le texte d'Apocalypse 22, verset 6. Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Le fait que l'ange déclare « Je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, les prophètes », est particulièrement significatif, car dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient les serviteurs de Yahvé, voir Amos 3, verset 7. L'équivalence entre le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie montre aussi que le témoignage de Jésus ne fait pas référence au témoignage historique de Jésus, alors qu'il était homme, comme ont voulu le montrer certains théologiens, mais au témoignage postérieur à sa résurrection, accessible grâce au don de prophétie, dans le but de montrer ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse 1, verset 1. James Moffat déclare « Le témoignage de ou porté par Jésus est ou constitue l'esprit de la prophétie. » Cette observation désigne spécifiquement les frères qui portent le témoignage de Jésus comme étant les possesseurs de l'inspiration prophétique. Le témoignage de Jésus signifie que Jésus témoigne. 22, verset 20. C'est l'auto-révélation de Jésus qui inspire les prophètes chrétiens. Cette affirmation est confirmée par l'introduction du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 1, versets 1 à 3, qui décrit la chaîne de transmission de la révélation de Dieu à l'Église en un processus comportant trois phases. Le prologue nous dit que la révélation divine débute avec Dieu. Jésus communique sa révélation au prophète, Jean dans ce cas précis, par l'intermédiaire de son ange dans une vision. Jean porte témoignage des choses qu'il a vues en vision, qu'il décrit comme étant la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Verset 2. Puis il transmet ces choses à l'Église, à savoir les paroles de la prophétie. Verset 3. Dans le livre de l'Apocalypse, l'expression « le témoignage de Jésus » est mise en relation avec la parole de Dieu. Verset 2, 9, 20, verset 4. L'expression « la parole de Dieu » « O logos tou teou » dans l'Ancien Testament grec, la Septante, fait régulièrement référence à la vision prophétique, voir Osée 1, verset 1, Joël 1, verset 1, Michée 1, verset 1, Agée 1, verset 1, Zacharie 1, verset 7. Ainsi, en utilisant l'expression « parole de Dieu » pour parler du contenu de l'Apocalypse, Jean montre que ce qu'il écrit provient de Dieu, tout comme les messages adressés aux prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, nous constatons que le texte d'Apocalypse 1, versets 1 à 3, montre que Jésus communique la parole de Dieu aux prophètes en vision et qu'il s'agit de son propre témoignage, autrement dit, le témoignage de Jésus-Christ. Ce concept est souligné dans Hébreux 1, verset 1, qui déclare que, dans le passé, Dieu parlait par les prophètes et que désormais, il parle par l'intermédiaire de son Fils. Kerd déclare « C'est la parole venant de Dieu et attestée par Jésus que l'Esprit prend et place dans la bouche des prophètes chrétiens. » Le prologue de l'Apocalypse semble donc être la clé permettant de comprendre cette déclaration, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Il indique que le témoignage de Jésus est la parole de Dieu, transmise par le Christ. Il s'agit de son témoignage adressé à l'Église grâce à l'esprit de la prophétie. Cette expression s'explique par le fait que c'est l'esprit qui inspire et place dans la bouche des prophètes les paroles du Christ, leur permettant de communiquer la parole prophétique au peuple de Dieu sur la terre. 2 Pierre 1, versets 20-21. Quand le prophète transmet le témoignage de Jésus-Christ à l'Église, celle-ci le reçoit comme étant les paroles de la prophétie. Apocalypse 1, verset 3. Cela souligne également le fait que le témoignage de Jésus est la révélation de Jésus par lui-même, pour son Église, et rendu possible grâce au don de prophétie. L'esprit de la prophétie dans l'Apocalypse. Comme nous l'avons vu précédemment, les sources juives extra-bibliques et l'Apocalypse montrent que l'expression « l'esprit de la prophétie » Apocalypse 19, verset 10, ne fait pas référence à tous les croyants en général, mais seulement à ceux qui sont appelés par Dieu à exercer un ministère prophétique. De la même façon, l'expression « le témoignage de Jésus » d'Apocalypse 12, versets 17 et 19, verset 10, ne fait pas référence aux croyants rendant un témoignage au sujet du Christ, mais au témoignage que Jésus porte par l'intermédiaire de ses prophètes inspirés par l'Esprit, comme c'était le cas avec les prophètes de l'Ancien Testament. Dans l'Apocalypse, les prophètes sont régulièrement mentionnés comme un groupe distinct du reste des croyants. 11, verset 18, 16, verset 6, 18, verset 20, 24, 22, verset 6, 9. Les croyants sont en possession du témoignage de Jésus qui leur est communiqué par les prophètes. Par conséquent, le témoignage de Jésus est donc la substance du message prophétique. Le texte d'Apocalypse 19, verset 10, est donc conforme à l'enseignement du reste du Nouveau Testament où les prophètes forment un groupe particulier au sein de l'Église, comme c'était le cas des prophètes de l'Ancien Testament. De nombreux théologiens modernes soutiennent cette position. Par exemple, Richard Baucam déclare ceci. Il faut faire une distinction entre la vocation spéciale des prophètes chrétiens qui proclament la parole de Dieu au sein de la communauté chrétienne et la vocation générale de la communauté chrétienne dans son ensemble qui proclame la parole de Dieu dans le monde. Le premier groupe soutient donc le second. L'Esprit parle aux églises par les prophètes et au monde par les églises. Cependant, concernant les références spécifiques à l'Esprit que nous avons étudiées jusqu'à présent, elle concerne exclusivement l'inspiration divine du don de prophétie dont le but est d'édifier les églises. De la même façon, David Hone et beaucoup d'autres affirment que l'expression « l'esprit de la prophétie » signifie « la puissance qui permet à certaines personnes d'avoir des expériences visionnaires et qui leur fait des révélations qui ne sont pas accessibles à d'autres ». Le livre de l'Apocalypse reconnaît la présence et le ministère de personnes ayant le don de prophétie dans les églises d'Asie à l'époque de Jean. Tes frères, les prophètes. Apocalypse 22, verset 9. Sans préciser quoi que ce soit au sujet de leur rôle et de leurs activités dans ces églises. Mais le texte précise que ces personnes sont des serviteurs, des prophètes. Jean exerçait un rôle majeur au sein de ce groupe. Bien qu'il ne dise jamais être un prophète, son rôle est similaire à celui des prophètes de l'Ancien Testament. Comme Paul avant lui, 2 Corinthiens 12, verset 1, il affirme avoir reçu une révélation spéciale de la part de Dieu, et il porta le témoignage de Jésus-Christ qui lui fut communiqué en vision. Apocalypse 1, verset 2. Le contenu du livre qu'il écrivit est relatif aux paroles de la prophétie, verset 3, 22, verset 7, 18, qui lui furent adressés alors qu'il était saisi par l'Esprit. Apocalypse 1, verset 10, 4, verset 2, 17, verset 3, 21, verset 10, en vision. Jean fut donc un intermédiaire grâce auquel l'Esprit communiqua les paroles de Dieu pour être le témoignage du Christ à l'Église. Le livre de l'Apocalypse affirme être un livre prophétique, le témoignage même du Christ à l'Église, inspiré par l'Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans la transmission de la révélation prophétique de l'Apocalypse. Le mot « esprit », « pneuma », s'y trouve 24 fois, dont 18 fois pour faire référence au Saint-Esprit. Sur ces 18 références, 17 évoquent l'inspiration de Jean, alors que le texte d'Apocalypse 19, verset 10, évoque le ministère prophétique en général. Le Saint-Esprit est régulièrement désigné comme étant l'Esprit dans le livre, ce qui confirme le fait que dans Apocalypse 19, verset 10, l'Esprit est bien le Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse, les références au Saint-Esprit concernent l'inspiration prophétique et la transmission du message prophétique. L'activité du Saint-Esprit est rendue possible grâce aux prophètes œuvrant au sein de l'Église. À 4 reprises, Jean est saisi par l'Esprit pour lui permettre de voir des choses en vision. Apocalypse 1, verset 10, 4, verset 2, 17, verset 3, 21, verset 10. Tout comme Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 3, verset 12, 14, 8, verset 3, 37, verset 1, etc. Le don de prophétie est la parole de Dieu portée par le Christ pour être un témoignage pour l'Église et communiqué par l'Esprit. le Saint-Esprit, permet au prophète de recevoir le message prophétique dans des visions. Cela est manifeste dans la conclusion des messages adressés aux sept églises, dont il est dit qu'ils sont la voix de l'Esprit transmettant les paroles de Jésus, les exhortant au sortir de leur léthargie spirituelle. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, versets 7, 11, 17, 29, 3, versets 6, 13, 22. Ce que dit l'Esprit est en fait ce que dit le Christ. Cela nous rappelle la description que fait Jésus du rôle de l'Esprit. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Jean 16, versets 13, 14. Le lien entre l'Esprit et le don de prophétie permet de faire la distinction entre les vrais et les faux prophètes. Voir Apocalypse 2, versets 20 à 23. À l'époque de Jean, le don de prophétie était remis en question par des prophètes autoproclamés comme Jézabel de Thyatire qui affirmait être prophétesse. Verset 20. Dans son autre lettre, Jean encourage les chrétiens d'Asie à examiner les esprits afin de voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. 1 Jean 4, verset 1. Ils doivent prêter attention à ce que dit l'Esprit aux églises. Il est aussi significatif que, dans le cadre du conflit final, l'un des personnages clés de l'histoire de cette terre soit désigné dans l'Apocalypse sous l'appellation « faux prophète ». C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu de la fin des temps doit se laisser guider par le Christ au moyen de l'esprit de prophétie, l'Écriture, le livre de l'Apocalypse et les prophètes authentiques qui peuvent être envoyés par Dieu. Cependant, il ne s'agit pas uniquement de prêter attention à la manifestation du don de prophétie en son sein, mais aussi au message prophétique qui séparera le peuple de Dieu des infidèles à la fin des temps. Voir Apocalypse 1, verset 3. Conclusion. Le livre de l'Apocalypse montre-t-il que le peuple de Dieu vivant à la fin des temps connaîtra un ministère prophétique en son sein, similaire à celui qui était manifesté au sein du peuple de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament et à celle de Jean? Le ministère prophétique est visible dans la Bible. Il est présent dans l'Église depuis sa fondation au Sinaï et tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, et aujourd'hui encore dans l'Église chrétienne. Il sera présent dans l'Église jusqu'au jour où l'Église triomphante et glorifiée se tiendra victorieusement devant le trône de Dieu. Le livre de l'Apocalypse montre que Jean n'était pas le dernier des prophètes et que le ministère prophétique devait se poursuivre par la suite. Cela peut concerner le véritable peuple de Dieu tout au long de l'époque chrétienne. Mais les textes d'Apocalypse 12, versets 17 et 19, verset 10, disent clairement que le peuple de Dieu à la fin des temps sera celui qui possède le témoignage de Jésus transmis par l'esprit de la prophétie. Autrement dit, à la fin des temps, l'Église sera guidée par le don de prophétie, comme à l'époque de Jean. L'Apocalypse mentionne le martyre des saints et des prophètes lors de la crise finale. 16, verset 6, 18, verset 20, 24. Ainsi, le texte d'Apocalypse 19, verset 10 et 22, verset 6 et 9, donne au peuple de Dieu vivant les derniers jours de cette terre l'assurance que Dieu le guide grâce au don de prophétie, tout comme il l'a fait dans le passé. Ce qui était vrai pour l'Église dans le passé le sera aussi pour l'Église à la fin des temps. La Bible ne dit pas que le don de prophétie cessera un certain temps avant la parousie. L'Apocalypse montre qu'à la fin des temps, l'Église sera guidée par le ministère prophétique jusqu'à la page finale de l'histoire de cette terre, quand le don de prophétie n'aura plus de raison d'être pour l'Église triomphante lors du retour de Jésus. Les adventistes du septième jour considèrent traditionnellement que les prédictions d'Apocalypse 12, versets 17 et 19, verset 10, se sont accomplies par la vie et le ministère d'Ellen White, 1827 à 1915. Bien que cette conviction soit fermement enracinée dans les prophéties du dernier livre du Nouveau Testament, il faut préciser que ces textes ne sont pas des prophéties concernant Ellen White. Ils concernent plutôt la manifestation du témoignage de Jésus au sein du peuple de Dieu au moyen du don de prophétie à la fin des temps. Cependant, les adventistes du septième jour considèrent que la manifestation du don de prophétie par la vie et le ministère d'Ellen White est l'accomplissement de la prophétie biblique. Ce qui était vrai de la communauté de l'Alliance au cours de l'Exode peut être appliqué à l'Église adventiste naissante qui vit le jour après la grande déception. Par un prophète, le Seigneur fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Osée 12, verset 13. Le but et la fonction du don de prophétie dans l'Église aujourd'hui sont similaires au ministère prophétique des temps bibliques. Le rôle des prophètes consiste à guider l'Église et à préserver l'unité de foi en son sein. Proverbe 29, verset 18, Éphésiens 4, verset 13-14. Selon le texte d'Éphésiens 3, versets 2 à 6, les prophètes sont les intermédiaires de la révélation de Dieu. Ils sont appelés à dévoiler le mystère relatif à Jésus-Christ, à sa vie et à sa mort, son ministère au ciel et son retour sur la terre. William Barclay explique. Nous pouvons définir un véritable prophète comme celui qui reçoit du Christ le message qu'il apporte aux hommes et dont les paroles et les actions sont cohérentes et rendent témoignage du Christ. De la même façon, Bockham souligne « L'esprit de la prophétie parle par l'intermédiaire des prophètes chrétiens, apportant les paroles du Christ glorifié à son peuple sur la terre, révélant à la terre les paroles de la révélation céleste et dirigeant les prières des églises vers leur Seigneur céleste. » Voici quelles sont les fonctions particulières des prophètes chrétiens que l'Apocalypse désigne étant comme un groupe particulier au sein des églises. Apocalypse 11, verset 18, 16, verset 6, 18, verset 20, 24, 22, verset 9. Le don de prophétie est l'un des signes de l'amour de Dieu pour son peuple. D'après Pierre, l'Esprit prophétisa les souffrances du Christ et sa gloire à venir par l'intermédiaire des prophètes de l'Ancien Testament. 1 Pierre 1, versets 10-11. De la même manière, l'Esprit rend témoignage de la future venue du Christ en toute puissance et gloire. La parole prophétique est comme une lumière brillant dans un lieu obscur. Le peuple de Dieu aura besoin de la révélation prophétique jusqu'à ce que l'étoile du matin pointe. 2 Pierre 1, verset 19. Dans la Bible, l'étoile du matin est Jésus-Christ lui-même. Apocalypse 22, verset 16. Une fois qu'il sera revenu, nous n'aurons plus besoin de cette parole prophétique comparable à une lampe. 1 Corinthiens 13, verset 8 à 10. Paul déclare que lorsque nous le verrons face à face, verset 12, alors les messages des prophètes seront abolis, verset 8, car ils n'auront plus de raison d'être. En attendant ce jour, nous dépendons de la révélation prophétique telle qu'elle nous est proposée dans l'Écriture et par les authentiques prophètes qui peuvent être envoyés par Dieu. Paul déclare ceci : N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages de prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21.